Radio Okapi.
Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel avec un engagement commun pour la stabilité régionale a été convenu par les présidents congolais et rwandais hier à Doha en présence du roi du Qatar. Mais les trois parties ont des conceptions différentes pour la suite du processus de paix dans l'est de la RDC. Dans ce journal, le résumé des communiqués de ces trois parties. La route nationale numéro 17 est très délabrée et puis dans une zone peu sécurisée. Cette route de grande importance économique est reliée à la ville de Bandundu à Kinshasa en passant par Kwamouth est presque abandonnée car très peu praticable. La première ministre Judith Suminwa promet sa prochaine réhabilitation après l'avoir débarrassée de la milice Mobondo. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la Tchopo et l'invité de Radio Okapi, professeur Roger Ekongo Demba, va parler du projet de création des nouvelles communes dans la ville de Kisangani. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda ainsi que le roi du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se sont rencontrés hier à Doha pour discuter de la paix dans l'est de la RDC. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel a été convenu avec un engagement commun pour la stabilité régionale. Cependant, chaque partie a présenté des visions différentes pour la suite du processus de paix. L'essentiel des communiqués de ces trois parties dans ce condensé de Martial Papimukeba rendu par Jacques Molima.
Le ministère des Affaires étrangères du Qatar, en tant que médiateur, a salué les progrès du processus de Luanda, Nairobi et EAC SADC, réaffirmant l'engagement des parties à un cessez-le-feu immédiat. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les bases d'une paix durable, évoquant une fusion ou un alignement des processus de Luanda et Nairobi pour optimiser les démarches de paix. En tant qu'hôte, le Qatar a souligné l'importance de poursuivre les discussions entamées à Doha pour consolider les efforts de paix. Dans un communiqué publié ce mardi, la présidence de la RDC a mis l'accent sur l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que sur la nécessité de rétablir l'intégrité territoriale du pays. Le président congolais a réaffirmé son engagement envers le processus de Luanda et Nairobi, appelant à la fin des violences du M23 AFC au nord et au sud Kivu. De son côté, dans un communiqué, la présidence du Rwanda a exprimé son soutien aux efforts de processus et à ses SADC, tout en insistant sur la nécessité de traiter la question des FDLR. Le président rwandais a également plaidé pour un dialogue direct avec le M23 AFC qu'il considère comme essentiel pour résoudre les causes profondes du conflit. La RDC et le Rwanda ont exprimé toutefois leur volonté commune de trouver une solution définitive et pacifique au conflit.
Sur le terrain au sud Kivu, des violents combats se sont déroulés hier entre les Wazalendo et le 123 dans le groupement de Bourale et territoire de Walungu. Le bilan provisoire est de 2 civils tués et de plusieurs blessés. Les habitants de Walungu Centre, qui commençaient à retourner dans leur village, ont encore une fois plié bagage. Rachel Kessé.
Les affrontements d'hier ont duré plusieurs heures sur l'axe Bourale-Kankinda-Mulamba dans le territoire de Walungu. Deux civils ont péri, les blessés sont innombrables, rapportent les sources contactées à Walungu. La population prise en étau n'a pas su quelle direction prendre dans leur fuite. Les chefs-lieux du territoire de Walungu est encerclé de toutes parts, les Wazalendo d'un côté et les M23 de l'autre. L'administration ne fonctionne plus, ses animateurs vivent dans la clandestinité. Le bureau de l'administrateur de territoire et de la chefferie de Ngwéché sont abandonnés, ce qui fait monter la crainte des habitants de cette entité qui abrite les bureaux administratifs. La police et les services des renseignements sont inexistants. Dans une telle jungle, tout le monde préfère aller s'abriter loin de là où les M23 et les Wazalendo s'affrontent régulièrement. Une partie de la population qui s'était déplacée le week-end dernier commençait à regagner leur domicile, mais les affrontements d'hier les a poussés à fuir de nouveau. Des fois, ce sont les Wazalendo qui attaquent, tantôt c'est le M23 qui lance des assauts pour occuper les lignes des fronts tenues par les Wazalendo et vice-versa. Toutes les deux forces se neutralise, mais c'est toujours la population civile qui paye les prix de toutes ces attaques.
Des affrontements sont signalés aussi en Ituri depuis hier entre les militaires ougandais de UPDF et la milice Codeco dans la région de Fataki, à plus de 80 km au nord de la ville de Bunia dans le territoire de Djougou. Des sources sécuritaires locales rapportent qu'il y a des morts ainsi que des blessés de deux côtés, sans donner plus de détails. Cette attaque a provoqué un important mouvement des habitants, dont certains se dirigent vers la base militaire de la MONUSCO de Djaïba et d'autres vers les villages périphériques. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation sécuritaire est tendue depuis mardi dans la région des Fataki après l'arrivée tôt le matin des militaires ougandais dans cette entité en provenance du territoire de Mahagi. À leur arrivée, les miliciens du groupe armé Codeco ont aussitôt exprimé leur colère par des tirs, des sommations. Au fil des temps, la tension est montée entre les deux parties. Des sources de sécurité renseignent qu'un élément de la Codeco a été tué. Du côté de l'armée ougandaise, deux soldats sont blessés ainsi qu'un soldat des FARDC. D'autres sources parlent encore de plusieurs morts de part et d'autre, des informations qui ne confirment pas encore l'administrateur du territoire de Djougou. Selon un rapport de la MONUSCO, le militaire de FARDC blessé a été évacué vers Bounia par les casques bleus pour y être soigné. Les soldats de la paix effectuent des patrouilles et des sécurisations dans la zone pour assurer la protection des populations civiles. Des milliers de civils, en majorité des déplacés, sont regroupés en ce moment autour du camp de la mission onusienne à Djaïba. Contactez le porte-parole de l'armée à Ituri. Se réserve de tout commentaire à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Kinshasa, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a présenté hier au bureau de la Chambre basse du Parlement son rapport sur les auditions des membres du gouvernement pendant la session extraordinaire. Ces auditions de 5 membres du gouvernement ont porté sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays à la suite de la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda en soutien au M23. D'après le président de la Commission Défense et Sécurité, ce rapport est le fruit d'un grand travail abattu urgemment par la Commission, travail qui lui permet aujourd'hui d'éclairer la lanterne du bureau de l'Assemblée nationale sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression. Rubens Mikendo est au micro de Michel Kifindangoy.
Aujourd'hui, la Commission Défense et Sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est le jour où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée, ou si vous voulez, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer, il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau et on pourra discuter de la question au cours de la plénière.
Impact de l'agression du M23 sur les finances publiques en RDC, le ministre des Finances mobilise la troïka politique pour préserver la stabilité macroéconomique. Doudou Fouambali Koundé Libotaï a dirigé hier, en présence du ministre du Budget et des vice-ministres de deux portefeuilles, une séance de travail avec les experts du Budget et des Finances, le conseiller du chef de l'État ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, consacrée à l'évaluation de la situation macroéconomique nationale, tenant compte du contexte marqué par les effets de l'agression du 1-23. Cette réunion marque un début de l'élaboration d'un collectif budgétaire qui sera présenté au Parlement pour examen et adoption. Michel Kifindangoy.
Malgré les pressions économiques induites par cette crise humanitaire, les indicateurs macroéconomiques restent sous contrôle avec une inflation maîtrisée et un taux d'échange stable, se félicite le ministre de Finances Doudou Fouamba. Cette résilience repose sur une gestion rigoureuse des finances publiques et une coordination efficace des politiques budgétaires et monétaires, souligne le coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes, Félicien Moulenda.
Passer en revue les différentes préoccupations avec les fonds monétaires internationaux. Comment on prend en compte, par exemple, l'explosion des dépenses qui sont dues du fait de la guerre dans la loi des finances rectificatives. Comment on prend en compte les mesures de réduction du train de vie des institutions recommandées par le gouvernement. Et comment on prend en compte le doublement de la solde des militaires également décidé par le gouvernement. Toutes ces actions-là auront un impact sur le budget et sur les cadrages convenus avec le Fonds monétaire international. D'où le besoin d'avoir la préfiguration de la loi de finances rectificatives.
Ces ajustements budgétaires devront être intégrés dans les discussions avec le FMI afin d'assurer la cohérence du cadre macroéconomique, ajoute Félicien Moulenda.
La route nationale numéro 17 qui relie la ville de Bandundu à Kinshasa traversant le territoire de Kwamu, Thomas Indombe est pour le moment presque abandonnée car très peu praticable. La circulation est rare sur cette voie depuis un long moment déjà, disent les voyageurs. Cette route de grande importance économique est très délabrée, notamment le tronçon compris entre Mongata et Bandunduville. En plus, la présence de la milice Mobondo dans cette zone ne rassure pas les voyageurs. Pour Judith Souminois, première ministre de la RDC, des efforts sont en train d'être conjugué par son gouvernement pour rétablir la sécurité dans ce coin du pays et pour en reprendre ensuite les travaux de modernisation interrompus à cause de cette insécurité. Depuis Bandunduville, Irène Mbomaluzolo.
Délabrée comme à l'accoutumée, cette route en terre est longue de 250 km, rend la tâche difficile aux voyageurs et aux commerçants opérant sur les tronçons Mongata-Bandundu. Selon les usagers, des bourbiers, des gros trous de flaques d'eau, des érosions et autres font tourner mille fois les pneus sur les mêmes endroits, surtout pendant la saison pluvieuse. Au-delà de ces calvaires, s'ajoute aussi un problème d'insécurité orchestré par la milice Mobondo qui demeure active depuis près de 3 ans à Kwamu, Thoma Indombe. Du coup, la RN17 est presque abandonnée et peu fréquentée car les usagers craignent pour leur vie, disent-ils. Rappelons qu'en juillet 2022, les travaux de modernisation de cette route avaient débuté, mais ont été arrêtés à cause de l'insécurité. C'est ce qu'a déclaré la première ministre Judith Souminois lors de son passage dimanche à Bandundu. Toutefois, elle a rassuré que son gouvernement multiplie des efforts pour le rétablissement de la paix dans la région en vue de la reprise des travaux dans le cadre du programme sino-congolais. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans la province du Sankuru, plus de 30 000 habitants de Lubefu Centre, des localités de Pembe et de Shenga, dans le secteur de Ndjovu, accèdent à l'eau potable depuis bientôt une semaine. Deux forages de puits d'eau ont été creusés grâce au projet initié en partenariat avec l'ASBL belge Maillon Humanitaire, soutenu par le Centre Hospitalier Régional de Huy et Wallonie-Bruxelles. Esther Ndalafina.
Plus de 30 000 habitants de Lubefu Centre et ceux de Shenga accèdent désormais à l'eau potable. Cela grâce au projet soumis par le député national Hippolyte Ndjongabo auprès de l'ASBL belge Maillon Humanitaire, soutenu par le Centre Hospitalier Régional de Huy et Wallonie-Bruxelles. Pauline Lokolé, enseignante à Lubefu, salue ce projet.
Nous, la population de Lubefu, surtout les femmes, nous sommes inondés de joie vraiment. Parce qu'auparavant, on avait trop de difficultés pour avoir de l'eau propre. Mais pour l'instant, nous avons de l'eau propre, nous buvons tel que nous voulons.
Louise Onemanjadi se rappelle de son calvaire pour accéder à l'eau brute de la rivière.
Nous avons souffert beaucoup. Pour les problèmes de forage, nous avons la joie. On souffrait vraiment. Il y avait peut-être 2 kilomètres ou 3 kilomètres qu'on partait prendre de l'eau.
Chef Koy du groupement d'Mpembe remercie les bienfaiteurs. Pour le député national Hippolyte Ndjongambo, initiateur du projet, ce forage lutte contre les maladies hydriques. Signalons que les travaux d'érection de ce forage ont pris près de 3 semaines. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ouverture hier à Kisangani, province de la Tchopo, d'un atelier de 2 jours portant sur les négociations et la signature du cahier des charges de la responsabilité sociétale de l'entreprise minière Libela et la communauté du secteur Popoi dans le territoire de Banalia. Ce document oriente et organise la mise en œuvre des engagements de Libela relatifs à la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit de la communauté Popoi. Le ministre provincial en charge des mines, Thomas César Messemo Wamessemo, explique que les objectifs de cet atelier, ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Examiner et valider les clauses du projet de cahier des charges, cela implique une révision approfondie des termes et conditions pour assurer qu'ils répondent aux attentes et besoins de toutes les parties impliquées. Deuxièmement, identifier et prioriser les projets de développement socio-économique. Cet objectif vise à déterminer quels projets bénéficieront du financement de la société libérale en tenant compte de leur impact potentiel sur la communauté. Troisièmement, définir les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. Il s'agit d'établir les mécanismes clairs pour la réalisation des engagements pris par la société minière, afin d'assurer une transparence et une responsabilité tout au long du processus. Quatrièmement, signer officiellement les cahiers des charges. Cette étape symbolise l'engagement mutuel des parties prenantes, consolidant ainsi leur collaboration pour le développement socio-économique.
Actualité internationale.
Des attaques des paramilitaires soudanais ont causé la mort d'au moins 50 personnes cette dernière semaine, dont 10 volontaires à Khartoum au Soudan, et indique ce mercredi des secouristes, alors que le combat avec l'armée pour le contrôle de la capitale s'intensifie. Khartoum connaît une situation tragique. Les citoyens de plusieurs quartiers sont victimes de violations généralisées de la part des forces de soutien rapide et des milices alliées, a déclaré dans un communiqué la cellule d'intervention d'urgence de Khartoum, qui fait partie d'un réseau de volontaires coordonnant l'aide humanitaire à travers le Soudan. Le groupe a ajouté qu'environ 70 personnes, dont 12 volontaires, ont été enlevées la semaine dernière, ajoutant que les déplacements forcés ont augmenté dans le centre, le sud et l'est de la capitale. Des cas de violences sexuelles ont également été signalés, bien que les chiffres exacts restent incertains en raison de la peur et de la stigmatisation sociale. La malnutrition, a-t-il ajouté, a atteint également des niveaux critiques et a causé la mort de 7 enfants depuis début mars.
L'invité.
Un projet de création des nouvelles communes est en gestation dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Ce dossier a été examiné la semaine dernière au cours du Conseil des ministres. Une fois approuvé et publié par un décret de la première ministre, la ville de Kisangani pourrait passer de 6 à une dizaine de communes. Quelle est la motivation de ce projet? Quels en sont les objectifs? Pour en parler, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et l'invité de Radio Okapi, professeur Roger Ikongo Demba, s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Des dossiers examinés la semaine dernière au Conseil des ministres, il en est un relatif à la création des nouvelles communes. D'où vient cette initiative?
Oui, merci beaucoup. Effectivement, nous avons été instruits, notamment son excellent monsieur le vice-gouverneur et moi, pour actionner l'instruction qui a été envoyée par son excellent monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui a instruit son excellent monsieur le gouverneur, pour que nous puissions voir la possibilité de créer des nouvelles communes au niveau de la ville d'Kisangani.
Et quelle pourrait être la motivation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur?
Alors, de nombreux rapports, ainsi que des différentes informations, que ce soit sur les plans administratifs et sécuritaires, son excellence monsieur le VPM en charge de l'intérieur et aussi plusieurs missions qu'il a envoyées sur terrain ici dans la ville de Kisangani, il a compris qu'il y avait des gros soucis en ce qui concerne le rapport entre les différentes communes ainsi que le secteur de Lubuyabera. Et donc, pour essayer de résoudre de manière globale ces conflits, ces problèmes d'administration, il a pris à son excellent monsieur le VPM intérieur de voir comment est-ce qu'on peut mettre fin à cette entité coutumière qui pratiquement ceinture la ville. Et donc, l'idée était orientée pour qu'on puisse mener des études techniques en tenant compte notamment de la densité de la circonscription, de la démographie, c'est-à-dire qu'il faudra au moins qu'on ait 20 000 habitants pour que nous puissions faire des propositions à son excellence, de manière à ramener ses propositions au niveau de son excellence madame la première ministre, parce que c'est elle qui est habilitée à sortir les décrets pour créer des nouvelles provinces.
Ces communes qui seront nouvellement créées vont toujours cohabiter avec les anciennes existantes. Donc il y aura toujours des relations de voisinage. Pensez-vous vraiment qu'en créant de nouvelles entités communales, on pourrait résoudre ce problème de chevauchement?
Non seulement on résout le problème de chevauchement, mais la ville est appelée à s'étendre. Avec le poids démographique de la ville, les trop-pleins de ceux qui sont dans les différentes communes peuvent se projeter sur les nouvelles communes qui seront créées.
Est-ce que la loi l'autorise?
Tout à fait, la loi l'autorise parce qu'au terme de la loi, lorsque une agglomération ou une entité présente un certain nombre de garanties en termes de superficie, mais également en termes de nombre d'habitants, pour les cas de la création des communes, 20 000 habitants suffisent. Mais en plus de ces données, il y a des étapes qui vont suivre, notamment la présentation du projet au niveau de l'Assemblée provinciale. Et une fois l'Assemblée provinciale fait des consultations au niveau des communautés locales, on pourra remonter jusqu'à ce qu'on puisse arriver justement à ce projet.
Alors, que faites-vous concrètement pour essayer de matérialiser ce projet?
Très bien. Sous la conduite de son excellence, monsieur le vice-gouverneur, monsieur Didier Loboyo, il s'agit d'une grande commission. À l'intérieur de cette commission, il y a des services techniques de l'État. À travers les actes de création des anciennes communes, pour que nous puissions identifier les repères en termes des limites. Et à partir de là, nous pourrons maintenant voir, selon les axes, notamment l'axe Bangbuka du côté de l'aéroport. Il y a un autre axe qui est ciblé au niveau de l'autre rive du pont Tchopo. Il y a l'axe du côté de Mangobo et du côté Segama et Simisimi. Le dernier axe, c'est du côté de la rive gauche et du fleuve Congo, à partir du poste d'Ossio. Donc, ce sont ces axes-là où, très prochainement, les équipes vont faire le travail de terrain de façon qu'on puisse prélever des données. Et lorsque nous allons venir avec ces données, avec des propositions de limites claires, ça va nous permettre de faire la mise en commun et proposer ainsi un scénario en termes de création de nouvelles projets.
Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que ce projet risque de susciter un malentendu au sein de la population? Je me rappelle du tollé qu'avait provoqué la nomination d'un bourgmestre dans la collectivité secteur de Lubuyabera. Qu'en dites-vous?
C'est justement afin de prévenir ces éventuels malentendus que nous avons, dans les travaux préliminaires, nous avons associé les chefs coutumiers, les chefs de groupement, les différents leaders d'opinion au niveau de la communauté Lubuyabera pour qu'ils puissent participer au débat que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un. Et puis, des deux, lorsque nous allons faire des descentes sur terrain, nous aurons l'occasion d'informer, de communiquer, de parler avec la population, n'est-ce pas, les bien fondés ou les avantages que la population pourra tirer, n'est-ce pas, de l'érection de leurs entités respectives à des communes.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci bien.
Merci d'avoir suivi ce journal présenté par Noéla Lozitu Kabambi, un journal mis en onde par Debs et Vita sous la coordination de Élisée Chikota Chivueta et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci de rester à l'écoute de la suite de programmes de Radio Okapi, le média de la paix.